Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux.
Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions, et vous écoutez Le Déclic. Pour ce nouvel épisode, nous avons invité Sylvain Thavenot à notre micro. Sylvain, c'est l'un des rois de la teuf parisienne et montpelliéraine, qui n'a rien à envier à Michou ou à Régine, et surtout pas en termes de style. Plus sérieusement, et même si le sérieux n'est pas son fond de commerce, Sylvain, c'est l'un des organisateurs et créateurs de soirées très connues, les We Are The 90s, soirées qui vous plongent dans les années 90, et les chronologiques, nuits pendant lesquelles on passe une heure avec une décennie de musique différente de 1950 à nos jours. Mais avant ça, Sylvain, c'est un entrepreneur qui n'avait pas forcément l'intention de faire de la teuf son métier, mais son destin, le hasard ou ce que vous voulez, en a décidé autrement. Salut Sylvain.
Waouh! C'est trop bien comme intro.
Ah, merci beaucoup.
Bonjour Juliette.
Comment vas-tu?
Bonjour Sophie, je sais que tu m'entends là-bas à Lille.
Oui.
Je te dédicace ce podcast pour toi.
Comment ça va Sylvain? On est ravis de t'avoir dans le déclic.
Eh bien, je suis ravi d'être là.
Bah, c'est sûr. Écoute, on va faire un petit retour en arrière parce que, en fait, un déclic, ça se fait toujours dans un contexte un peu particulier. Mm-hmm. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Alors, qui es-tu et d'où viens-tu?
Phew. Qui es-tu? Écoute, je viens d'avoir 40 ans, je suis né en 80, j'ai passé toute ma jeunesse en Alsace, voilà, je suis sur Paris depuis 2006, je ne viens pas du tout du monde de la nuit, j'ai fait des études d'histoire, j'ai une licence d'histoire.
C'est vrai,
je ne le sachais-tu?
Non, je ne le sachais pas.
Voilà, tu ne le sachais pas ça, hein. J'ai une licence d'histoire, après j'ai travaillé dans la communication, notamment pour Swatch en Suisse.
D'accord, je ne savais pas non plus. Bah, c'est fou tout ce qu'on apprend sur les gens.
Ouais. C'est la licence d'histoire, communication, voilà. pas de rapport particulier.
Tu sais, maintenant je suis dans le marketing, à la base je suis styliste. Hein, donc.
Bah, tu sais, les chemins, les parcours de vie quand même, c'est assez incroyable.
La vie est une surprise.
La vie est une fête, est une surprise, c'est vrai. Et en 2006, je signe dans une agence à Paris qui s'appelait Tribeca,
ouais,
qui faisait du marketing alternatif.
Ça, je me rappelle.
Qui était hyper bien. C'est une petite équipe hyper cool, on faisait du marketing un peu novateur, on était les premiers un peu à bosser avec ce qu'on appelait à l'époque les blogueurs. Je te parle d'une époque où en 2006, on gérait le MySpace de Nike.
C'est génial.
Hein ? C'était pas si longtemps que ça, mais on a l'impression que c'est une éternité.
C'est vrai que ouais,
alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, MySpace.
Ouais, MySpace, c'est vrai que ça.
C'est comme les Skyblogs.
Tu vois, je me pose souvent la question des mecs. C'est un truc qu'on va aborder dans notre format l'apéro avec Sophie. Mais c'est moi, je me pose. J'aimerais pas être le mec qui a pas réussi à transformer MySpace et compagnie, tu vois. Ou alors être le mec qui n'a pas. Le chef d'entreprise qui s'est dit Internet, ça marchera jamais.
C'est le cinquième Beatles. Le mec a fait off.
Tu vois, moi j'ai toujours pensé à ce mec-là.
T'as tourné à Liverpool, ça m'intéresse pas.
C'est ça. Moi j'ai toujours pensé à ce mec-là qui s'est dit non mais Internet, ça marchera jamais. Il y en a eu plein.
Bah tu regardes fin 90.
C'est ça.
Quelques déclarations. Oui, mais attends, bah, c'est comme ça.
Mais tu vois, mais pareil, tout MySpace, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, bah moi en 2006, j'étais en troisième.
Sale jeune.
Moi j'étais en troisième et puis c'était à. Enfin, on pensait que ça existerait toujours, quoi. C'est pareil, MSN, ça a disparu. Alors
ça va vite, hein.
C'est...
MySpace, c'était tellement fat à un moment donné.
Tout
le monde s'est fait bouffer par Facebook.
C'est clair.
Ils ont fait aller, hop.
Et Facebook est même en train un peu de mourir maintenant. Enfin, est en déclin, en tout cas, ils sont.
Ouais, mais ils ont. Ils ont fait. Ils connaissent l'histoire. Ils ont fait attends. Moi non, hein. J'achète tout.
Je ne serais pas MySpace.
T'inquiète pas. Voilà, exactement. Ça fait un précédent.
Ouais. Et du coup, donc, tu as géré le MySpace de Nike.
Ouais. J'ai fait d'autres trucs rigolos. Non, mais on était une agence, on a fait plein de trucs assez sympas. On était les premiers à faire à s'intéresser aussi aux blogueurs à l'époque.
Mm-hmm.
Donc on a commencé à faire des opérations pour des marques et tout, etc. etc. Donc c'était assez sympa. C'est aussi pour ça que mes soirées ont commencé à marcher assez rapidement. C'est que j'avais tout un petit réseau d'amis un peu influents, etc. Ouais.
Et puis dans la com et tout.
Puis dans la com, etc. etc. Donc,
Mais du coup, t'as évolué dans la communication, c'est ce que tu nous disais. Mais quand t'étais petit et ado, enfin quand t'étais petit, je pense que t'as eu une phase où tu voulais être pompier ou.
Bah, footballeur professionnel, comme tout le monde.
Bien sûr.
Hein. Pour finir un pauvre niveau amateur en Alsace à écumer la route des vins. Non, assez rapidement, en fait, je me suis intéressé à la communication. Parce que j'ai mon père qui travaillait dedans et j'aimais le côté créatif de raconter des trucs.
Ouais.
Donc j'ai fait des pubs pour Swatch quand j'avais genre 16-17 ans, parce que mon père me demandait « Est-ce que t'as une idée ?» Je fais « Bah, ça serait pas mal, machin. » Et bon, j'ai fait des trucs qui ont interpellé, voilà, au plus haut niveau.
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux gens, je suis interpellé.
Je suis interpellé. Oh, qui c'est le petit là ? Il m'interpelle.
La Swatch.
Oh, enfin... Et c'est un truc qui m'a toujours. J'étais très bon en rédaction au collège.
En conception rédaction.
En conception. Ouais, tu vois, j'ai.
Comment on appelle ça ? Les dissertes de création. Ouais, des trucs comme ça, écrire des histoires.
Tout ça, c'était ma cam.
Des exercices comme ça, d'écrire une histoire.
Voilà, c'était ma cam. Et du coup, je retrouvais un peu dans la pub que j'avais envie de faire ce côté-là. J'adorais toutes les pubs Volkswagen à l'époque. J'adorais culture pub, j'allais à la nuit des pubs divorce, ce genre de choses, tu vois.
Moi, je me souviens, j'aurais pas pensé finir dans la pub aussi, mais c'est vrai que quand j'étais en seconde, j'avais un super prof de français qui nous avait fait faire une disserte sur la publicité est-elle un art. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Mais vraiment, c'est pareil, la pub, ça m'a toujours attiré aussi, c'est vrai que ça t'a.
Bon, après, tu déchantes un peu hein, quand tu commences à mettre les mains dedans et voir, alors, on va mettre le logo plus gros. Hein ? Voilà.
Et
les croquettes, t'avais des chansons nulles pour des chatons et tout. Enfin, non, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais faire de l'art.
Moi, je pense toujours aussi aux chanteurs qui sont embauchés pour faire des pubs et qui chantent des trucs de merde.
Mais moi, à chaque fois, j'essaie de m'imaginer quand ils sont en train de faire leur truc.
Moi, je pense aussi, genre, tous les mecs qui sont acteurs et qui font ça pour arrondir leur fin de mois. Le mec qui jouait Monsieur Cholestérol, tu vois, qui était habillé tout en jaune et qui devait apprendre un air goguenard dans l'arbre au-dessus d'un mec qui lui étalait de la margarine sur sa tartine. Tu...
Heureusement qu'il prenait de l'argent. Hein.
Ah, c'est pour ça, tu vois, à chaque fois, je pense à ça. Même les chanteurs professionnels qui chantent, je sais pas, les jingles.
Mais moi, ouais, je les imagine dans le studio hyper. Alors après, c'est leur métier, hein, tant mieux, hein, mais je les imagine hyper concentrés pour faire le chat.
Ça, et je pense aussi beaucoup aux chanteuses de chœur derrière Francky Vincent, le restaurant.
C'est vrai.
Tu vois cette chanson avec un personnel de merde.
Oh, tu l'as, on la garde, c'est super.
Bien sûr.
J'ai ça aussi. J'ai une horreur totale de toutes les pubs radio. Je trouve que je comprends pas comment ça peut évoluer, ce truc. Quoi.
C'est vrai que les pubs radio, c'est un peu l'angoisse. Radio,
mais c'est l'angoisse totale. J'ai jamais compris. À un moment donné, quand j'ai travaillé un peu là-dedans, je me suis dit, putain, ça serait pas mal de créer une agence spécialisée là-dedans qui dit, les enfants, ça fait 50 ans.
Arrêtez maintenant.
C'est bon, on a l'impression.
Surtout les pubs en été, c'est les plus drôles parce qu'il y a toujours un bruit de cigale. Et une reconstruction d'un barbecue, tu vois.
Et l'accent marseillais très forcé. Oh, tu as la ceinture, hein ? Odoumé.
Eh, serre un peu de Bordeaux rosé.
Exactement. Ça n'a pas bougé, hein, la radio depuis. T'en as le même truc.
Et du coup, donc avant de devenir le Régine des soirées des années 90,
exactement.
J'adore te comparer à Régine parce que moi,
j'adore
être comparée à Régine. C'est la reine de la nuit qui vit au jour le jour.
Qui vit au jour le jour, exactement. Reine de la nuit.
J'adore cette chanson. Et du coup, en fait, avant, t'as que évolué dans la communication finalement. Les études d'histoire t'ont pas servi.
Non, alors en fait, elles m'ont pas servi parce que, en gros, je voulais bosser dans la com, dans la publicité, mais les filières après le bac m'intéressaient pas.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait des écoles de commerce, il y avait des écoles de machin, il y avait l'ISCOM qui était dans spécialisé machin, etc. Mais je trouvais pas ça hyper intéressant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une filière de généraliste qui m'intéressait, l'histoire. Mm-hmm. Et en parallèle de cette licence, j'ai multiplié les stages en entreprise de communication.
D'accord. Donc, et t'avais quel rôle, du coup ?
Alors, au cinéma ?
Oui.
Je suis Kevin Costner de Bodyguard.
Incroyable. Tu parles avec un accent français incroyable. Parfois, un peu sur le corps. Tu sais,
quel rôle j'avais où, pardon ?
Dans tes agences de pub, en fait.
Alors, j'étais stagiaire, donc j'ai fait. En fait, je me suis construit un double CV en disant voilà, je suis pas con, j'ai une licence d'histoire et en plus j'ai de l'expérience.
C'est pas bête, ton stratège.
J'ai fait des choses très différentes. J'ai bossé au marketing. Pour un très bon ami de mon père qui s'appelle Murat, qui avait une agence, une société qui s'appelait Manuest, qui faisait de la manutention.
D'où son nom ?
Des diables, des chariots, tout ça. Et j'ai fait des trucs à la con, mais j'ai fait les catalogues. Mais j'étais stagiaire, quoi.
Ouais.
C'était juste pour mettre un pied dedans. Après, plus intéressant, j'ai bossé dans une agence à Paris qui s'appelle 100 Degrés, qui existe toujours, qui était dans le packaging et design.
Ouais.
Et qui faisait des trucs incroyables. Tu vois les bouteilles de champagne Veuve Clicquot par exemple.
D'accord, ok.
C'est eux qui avaient dessiné ça. Ils continuent à très très bien tourner. Ils ont
Veuve Clicquot d'ailleurs qui sponsorise ce podcast.
Exactement. Alors Juliette, un peu de champagne. Oui, mais seulement du Veuve Clicquot. Montre-leur que t'as fait de la pub aussi. Et du coup, sans degré, j'y suis resté 2 ans. C'était hyper bien, hyper formateur, très intéressant. Et après, je suis parti chez Swatch en stage aussi. Mmh. Et finalement, Swatch, j'y suis resté 3-4 ans.
Ah oui, quand même.
Et c'était hyper cool au début.
Tout ça pour gagner un max de francs suisses.
Exactement. Oui, c'est vrai en plus. J'allais chercher une raison pour dire non, en fait, tu sais.
Non, mais en vrai, c'est vrai.
Parce qu'en plus, j'habitais chez mes parents. Donc
bah oui, et puis quand t'es frontalier, c'est le bonus. Hein.
Et puis, mais t'avais, j'étais en stage, je crois que je touchais genre 1500 balles par mois en stage, quoi. Vous voulez progresser dans cette société? Je suis non, en stagiaire.
Ici, c'est 450
balles.
Et donc,
tu me reçois parce que je suis stagiaire à 40 ans.
Chez Swatch.
Frontalier chez Swatch, exactement. Et Swatch, c'était hyper cool parce qu'au début, je travaillais dans un truc qui s'appelait le Lab, qui est un laboratoire de recherche et développement, ouais, communication et technologique.
Okay.
Genre, on avait une petite maison, c'était où? À Morges, à côté de Lausanne.
Ah bah, je connais un peu Lausanne, mais je ne connais pas trop la banlieue lausannaise.
Et tu avais genre un étage qui était réservé au développement produit. Donc, ouais, les mecs qui inventaient des trucs, genre quand tu touches ta montre sur le cadran, ça déclenche des trucs, tu vois.
Un feu d'artifice,
un feu d'artifice, voilà. Ça lance un radis à ton chat.
C'est génial.
Ce genre de choses. Et à l'étage de dessus, tu avais le recherche et développement de la communication, en fait. Comment on va faire pour aller sur Internet, machin. Ça a duré 2 ans. Et comme c'était du développement, ça ne rapportait pas d'argent. Donc, ils ont fermé. Mais on a bien rigolé.
Ouais, tu m'étonnes.
Voilà. Et après, je suis parti dans les bureaux en Suisse allemande à Bienne, dans les bureaux, d'accord, de Swatch. C'est devenu un peu moins funky, un peu moins intéressant. Et donc,
tu parles un peu allemand, du coup ou...
Je serais censé le faire un peu.
En plus, vous venez d'Alsace.
Ah ouais, j'ai fait...
Il n'y a pas beaucoup d'espagnol LV2 là-bas. Quoi.
Peu. Mais voilà, situation géographique.
Bien sûr. Fait que... Mais c'est comme on ne voit pas beaucoup d'allemands LV1.
Non, mais j'ai fait un paquet. J'ai fait 8 ou 10 ans d'allemand, mais je faisais un rejet de l'allemand à l'époque.
Ah ouais,
mais maintenant, ça m'intéresse un peu plus.
Mais moi aussi, tu sais, j'ai pris.
Von Goschenk.
Ouais, bah ouais, moi, hein,
c'était ton pseudo, mon pseudo là. Ouais, heureusement que j'ai fait allemand pour te percer à jour.
C'est-à-dire, j'ai le cadeau. Non, moi j'ai fait espagnol parce que j'ai effectivement une partie de ma famille qui vient du sud-ouest et on allait souvent en Espagne. Mais c'est vrai que moi, finalement, je suis plus une meuf des pays du Nord, donc ça m'aurait bien intéressé d'apprendre l'allemand, tu vois.
Ouais, je comprends.
Voilà, donc tu me donneras des cours.
Et on est mal barré, mais.
On fera un duo lingo.
Ah
ensemble.
Si, je vais avoir Ishundu, Müllersdu, Müllersku, Müllers Ezad, Asbisdu. Et après, comme chanson, j'ai Varum, 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 Is die Banane Krumm. Voilà, c'est un peu mon niveau d'allemand.
Bravo.
Je dédicace ça à mon père qui est trilingue parfait, qui s'est mis en cadre pour qu'on essaie de parler à peu près allemand correctement. C'est un échec, papa.
Et par rapport à ton déclic, on va bientôt y arriver, mais est-ce que toi, tu as toujours été, vu qu'en fait, c'est de lancer tes soirées années 90, je spoil un petit peu, mais tu as toujours été un fêtard, et est-ce que tu as toujours kiffé les musiques des années 90
Alors, j'ai pas toujours été un fêtard. Hein.
Ah, tu sais, ça dépend. Hein, moi,
j'ai une vie plutôt bien rangée. Hein.
C'est vrai.
Avant la débauche de la nuit.
Avant que la nuit t'attrape.
En fait, non, c'est... alors, je pense qu'on va arriver tranquillement au déclic, mais bien en sûr. Gros, on lance... We Are The 90s commence à exister en 2007.
Ouais.
Et j'avais une estime pour la musique des années 90 qu'en 2007, tout le monde décriait.
C'est justement dans mes questions, on y viendra après, mais effectivement, parce que maintenant, c'est ultra à la mode.
Ouais.
De toute façon, après, on n'est pas obligé de suivre tout à fait le fil, hein, c'est une discussion avant tout, mais en fait... C'est vrai que moi j'ai noté dans mes notes qu'effectivement les années 90 maintenant c'est ultra à la mode, tout le monde y revient que ce soit au niveau de la mode ou au niveau de la musique etc, il y a cette espèce de regain de nostalgie même des années 2000 qui commencent à venir parce qu'effectivement les années 2000 c'était il y a 20 ans.
Oui, d'ailleurs je ne sais pas si tu es au courant mais maintenant We Are The 90s depuis janvier on fait les 2000.
Ah ouais,
ouais. Très bien. Dans le central on fait 90 et en bas on a les 2000.
Oui c'est vrai, oui.
Avec DJ
Maton dit
Cosmic, oui. Aka Lucie Cosmala,
Cosmic,
et DJ Petrushka November, aka Louise, qui te mettent un bordel.
De... En même temps, c'est des spécialistes des années 2000, ces meufs.
Ah bah là, quand j'ai dit on va lancer ça
a sauté au plafond.
La joie.
Et la Swatch, feu d'artifice, claque.
Ouais, exactement, qui lance le radis en même temps, incroyable.
Mais ouais, non, du coup, donc effectivement, en 2007, c'était ultra ringard, quoi. Enfin,
ouais, c'était ringardos de ouf.
Et du coup, pourquoi, d'où ça t'est venu en fait? Pourquoi t'avais cette espèce de tendresse? Alors, finalement pour les années 90?
C'est là où on va devoir arriver au déclic.
Et hein. Bien sûr, non mais je te dis. Hein, c'est...
Alors, à l'époque, donc, je travaillais chez Tribeca, je suis en agence, mm-hmm. et j'ai mon collègue Bertrand Nickel, mm-hmm. exceptionnel Bertrand Nickel. Et on commence à picoler autour d'un apéro, bien sûr, comme bien on faisait sûr. Tous les vendredis dans cette agence qui savait faire bien
donc
les choses.
Donc t'es quand même fêtard. Hein.
Pardon ?
T'es quand même un fêtard, tu l'as.
Ouais,
t'as
ouais, mais pas...
En fait, t'aurais jamais imaginé de faire la teuf ton métier,
moi,
quoi.
Moi, j'arrive là-dedans, mais complètement par hasard. Hein. je suis... Oh,
ah bah tiens.
En plus, t'arrives là-dedans, tu dis le monde de la nuit, donc tu sais pas... Enfin, tu sais pas dans quoi tu connais pas les gens, t'as des a priori, enfin
c'est clair.
Alors que finalement il y a des gens tout le monde est extrêmement professionnel, enfin les gens avec qui on travaille en tout cas sont très très professionnels. Mm. Et avec Bertrand en fait on se rend compte que on parle entre nous des années 90, de Dr Alban, de Alliance Ethnique, des trucs, des sons et des groupes qui ont complètement disparu de la circulation. Quand on sortait à Paris à l'époque, il y avait... Pardon, tu couperas le...
Non, mais
non,
il rote.
Tu laisses le rototo au montage.
Bien, bien sûr. Bon, ce sera d'ailleurs le jingle.
Moi, je suis entier.
Ce sera d'ailleurs le jingle. On va remplacer c'est... l'intro par ça.
C'est parce qu'elle m'a donné du café soluble. et il y a des soirées 80 à Paris. Ouais. Et moi, quand je discute avec Bertrand de ça, on se dit, putain, mais nous, nos premières émotions musicales, quand tu fais tes booms à 13-14 ans, Bertrand, il est 83, moi, je suis de 80. Mm-hmm. Ben c'est pas les années 80, quoi. T'écoutes Dr Alban, Adaway, t'écoutes The Cranberries, t'écoutes ce genre de trucs. Et c'est ça qui te parle, et c'est ça qui te fait le côté un peu nostalgique du truc.
Ouais.
Et on commence à se dire, putain, ça serait vraiment cool de faire des soirées années 90. Et très, très rapidement, on fait, bah ouais, t'as raison, allons. Et puis on a fait Banco. On a fait, viens, on le tente. Donc on a commencé par lancer un site qui s'appelait wheresthenities.com,
ouais.
où on remettait au goût du jour les artistes musicaux de cette année-là. D'accord. En disant qu'est-ce qu'ils sont devenus.
J'adore ce truc-là.
Tupac est toujours vivant, il est sur une île cachée, enfin tu vois ce genre de choses.
Ouais.
Et on a commencé, on a fait une première We Are the 90s dans un bar en 2007 du coup,
mm-hmm.
je crois. Le bar s'appelait N'importe quoi, il doit toujours exister, c'est à Châtelet, c'est un bar.
Ça me dit quelque chose en plus.
On était genre 20. Mais c'était un succès monumental déjà.
Mais d'ailleurs, ouais, c'est une de mes questions aussi. C'est qu'en fait, quand vous avez commencé à faire, à organiser tout ça, vous avez quoi? Vous avez démarché des bars avec
on a
votre,
démarché des bars.
Avec
ouais.
votre, je sais pas, une plaquette.
Alors ça, sur le premier, je pense que c'est Bertrand qui, pour le coup, était un peu plus installé dans le milieu de la nuit que moi, mm. qui a dû aller voir le n'importe quoi. Les mecs, ils s'en foutaient. On avait pris genre un mercredi ou un jeudi soir.
Oui. Donc ça ne fallait pas prendre trop de risques, quoi.
Ils ont payé 50 balles pour le mix. Donc on a commencé comme ça. Mais tout de suite, on a senti qu'il y avait. On était 20, après on était 40. Mm. Et vraiment, ce qui était très très cool avec Bertrand, c'est que dès le début, on a vraiment cru au projet.
Ouais.
On s'est dit. Il faut qu'on aille. On a été pas mal accompagné par Tribeca aussi à l'époque, notre agence qui nous a fait payé des flyers, machin.
Trop bien.
Moi, par rapport, j'étais directeur clientèle marketing d'influence chez Tribeca, donc j'avais mon petit réseau de blogueurs, etc. Ouais. qui ont vu le concept, qui ont trouvé ça génial parce que c'était la même génération, donc ils en ont parlé. Donc ça a commencé à monter assez rapidement. Après, et le vrai moment où on s'est dit putain, là on tient un truc, c'est qu'on a fait une. On a organisé une soirée où, à l'époque, ça s'appelait le Bizen.
Ouais.
C'est en face de la bourse. Maintenant, okay. il y a la pizzeria, ouais. je ne sais plus comment, Popolo ou un truc comme ça. Là.
Ah oui, Popolare.
Popolare.
Popolo.
Popolo. Ah, Popolo.
Popolare, oui.
Et c'est un endroit où on pouvait mettre 200 personnes. Et je sais que c'était la première fois qu'on faisait un samedi soir. Et il y avait, je sais pas, il y avait 800 personnes à l'extérieur du truc. Genre, il y avait la queue, mais alors jusqu'à la perte de vue, machin.
Incroyable.
Et là, on s'est fait, putain, là, on tient un truc. Donc, on a continué à développer ça. Tranquillement pendant 2 ans. Après, on était longtemps les jeudis soirs au Sullivan's by the Mills,
ouais.
à côté de la machine. Déjà, on se positionnait. On, fait, attends, on va gratter un peu.
On va commencer à gagner du terrain au fur et à mesure.
Pour que les voisins ils écoutent. Et on a fait ça pendant un an et demi, je crois, les jeudis soirs. C'était très cool, c'était hyper sympa, ça marchait plutôt bien. Mais et c'est là aussi où c'était hyper intéressant avec Bertrand, c'est qu'on savait qu'on pouvait. Taper encore plus haut.
Mm.
Plus Bertrand que moi. Parce que moi, je me satisfaisais déjà du truc. Je me disais, putain, c'est génial.
Ouais, et puis pour toi qui n'avais jamais imaginé faire cette.
Moi, j'étais déjà extrêmement gratifié d'avoir, 200 ou 300 personnes un jeudi soir.
Mais du coup, pendant ce temps-là, ouais, vous continuez.
On était tous les deux en agence.
Ouais, vous continuez. Ouais. Et du coup, ça devait être assez dur à tenir comme rythme.
Oh, ça, on a eu des vendredis compliqués.
Ouais.
Mais c'était un jeudi par mois, je crois, un truc comme
d'accord,
ça.
D'accord, ok.
Donc là, fait un jeudi par mois qui est un peu compliqué. Mais je me souviens d'une fois, je suis arrivé en rendez-vous client chez L'Oréal.
En plus.
Et je sentais la vieille bière américaine qui serve au DJ au Sullivan. C'était pas mon. J'ai pas été hyper performant. Je pense qu'on a pas eu le DJ. Je vais pas te mentir, Julia. Je crois que celui-là, je suis passé à côté. Hein. J'étais pas mauvais à l'époque, mais celui-là, j'ai pas eu. C'était horrible. Le tiro comme ça.
Alors, la bière, c'est le lendemain.
Voilà. Votre produit est super. Votre parfum, ça sent hyper bon. On est bien content. Mais bon, par celui-là, j'ai pas trop de souvenirs de moments compliqués. Mais voilà, on travaillait tous les deux. Avec Bertrand en même temps. Bertrand était développeur chez Tribeca.
Je savais pas.
Ouais, c'est un très bon développeur.
C'est un informaticien.
Bertrand Nickel qui, en même temps, à l'époque où on fait Weird Antis, lance le Mélotron. Il faut savoir ça. Bertrand Nickel est l'auteur du Mélotron qui est devenu un bar et une web radio extrêmement réputée. Donc il faisait le grand écart musical entre les Spice Girls et des titres afro-brésiliens fin des 70 que personne ne connaît. Et on veut aller plus loin, on sait qu'il y a le potentiel et on commence à démarcher des grandes salles. Donc on a démarché le Bataclan, l'Élysée Montmartre, des lieux comme ça où on pouvait avoir plus de 2000 personnes, des grandes salles. Et l'Élysée Montmartre, avec Arnaud Lavergne, il nous dit « Banco, on vous file un jeudi soir en septembre 2009. Mmh. » Septembre 2009. Et là, sur cette date... Bertrand avait démissionné quelques mois auparavant parce qu'il voulait se mettre à son compte, il n'avait pas besoin de bosser. Et moi, sur cette date, je fais all-in. Je fais, allez, je mets tout là. Et je dis à Bertrand, deux jours avant, je fais, franchement, si ça marche, si ça cartonne, moi aussi je démissionne et puis on pousse le truc
à fond,
comme il faut. Et ben, carton.
Carton.
Il a dit banco. Et on se retrouve un jeudi soir pour la première, donc à l'Élysée Montmartre, avec 1500 personnes, tous les billets vendus en pré-vente. Même les Montmartre, un jeudi soir, un truc sans tête d'affiche, j'ai jamais vu ça. Et à partir de ce jour-là, depuis septembre 2009, tous les mois, c'est plein d'axes.
Mais d'ailleurs, moi, c'est une question que j'avais dans mes. Qui m'est revenue pendant qu'on discutait, mais Pénélope Bagieu faisait partie des premiers toughers de la We Are the 90s. Mais est-ce que tu l'avais connue, tu la connaissais d'avant? Parce que maintenant, elle est extrêmement connue. Moi, j'ai les culottés ici, j'ai les deux tomes, etc. Moi, je l'avais découvert sur son blog. Est-ce que tu l'as connue via son blog, puisque vous en faisiez avec Tribeca, ou c'était...
Alors, exactement. Alors, Pénélope a eu un très grand rôle quand même dans l'explosion de We Are the 90s. Parce que, bon, en termes d'audience, elle avait du monde.
Ouais.
Et donc, ce n'est pas juste qu'elle participe aux soirées, c'est que Pénélope a mixé.
D'accord.
Elle était DJ pour We Are the 90s.
Énorme.
C'est elle, mais très tôt, sur la troisième... À partir de la troisième soirée, elle était dans le coup.
Elle lisait Montmartre, du coup, à l'époque?
Non, la troisième soirée, petite soirée, c'est le Bizen.
D'accord.
Vraiment bien, bien avant. Et elle rentre dans l'équipe. On avait Mickaël Rochette, à l'époque, qui était DJ avec nous, qui était hyper impliqué, qui faisait super taf, qui était vraiment cool, et qui était très pote avec Pénélope à l'époque. Et quand Pénélope a su que Mickaël veut rejoindre l'équipe, elle fait « Ouais, mais moi aussi, wesh ». Et Pénélope, qui est une culture rock 90s incroyable, a importé le rock dans nos soirées. C'est-à-dire qu'avant, on était au deuxième, troisième, c'est vrai qu'avec Bertrand, on était plus hip-hop, dance. Et quand Pénélope a commencé à mixer, elle a envoyé des gros Rage Against the Machine, des Nirvana, des Sum 41, des trucs comme ça. Et elle a mixé avec nous jusqu'en 2012, je crois.
Okay.
Jusqu'en 2012, elle faisait partie de l'équipe. Donc, elle était identifiée à We Are the 90s. Elle a mis un coup d'accélérateur incroyable sur la soirée. Et puis, elle faisait des très, très bons sets rock. Fun radio, fait du bruit.
Et We Are the 90s, c'est toujours appelé We Are the 90s dès le départ?
Dès le début, ouais.
C'est génial.
Ouais, ouais. C'est Bertrand Nickel, je crois, qui avait trouvé le nom.
Qu'il est loué, ce Bertrand.
Ouais. Ah, il est bon, hein.
Ah,
il est fort, le type.
Ah, il est fort. Et du coup, Sylvain, tu nous parlais du fait que tu as fait un all-in au moment où ça s'est complètement concrétisé à l'Élysée Montmartre. Mmh. Et en fait, est-ce que tu t'es lancé en te disant « Vas-y, banco, j'en fais mon métier à part entière » ou c'était juste par rapport aux soirées où tu te dis « En fait, j'ai envie de faire ça une petite partie de ma vie
J'y suis allé en sachant qu'il y avait un potentiel.
Ouais.
Parce que on discutait... Moi, très rapidement, Arnaud Lavergne de l'Élysée Montmartre... quand il a vu le succès du truc, il a fait. Lui, il avait l'habitude, ils organisaient un truc qui s'appelait le bal de l'Élysée Montmartre, qui a duré pendant 15 ans. Et en gros, lui, dans sa tête, enfin, il nous disait clairement que ça avait le potentiel pour durer un moment. Moi, je ne me projetais pas du tout. Quand j'ai fait all-in, en fait, je me suis mis aussi à mon compte pour tout ce qui était conseil en stratégie digitale.
D'accord.
Donc, j'ai pas non plus.
T'as pas tout lâché.
C'est juste que j'ai créé. Voilà, je me suis mis à mon compte et j'ai créé deux boîtes. Toobane Productions qui gère We Are the Entities et Chronologique. Mm-hmm. Et à l'époque, ma boîte s'appelait Dasnets. Mon pseudo.
C'est un pseudo sur Instagram.
Sur les internos. Et qui. Pour tout ce qui était en conseil stratégie digitale. Donc pendant. 3-4 ans, j'ai fait les deux. Et là, ça fait bien 2-3 ans que Toobane Productions, ça a redevenu le moteur de mon économie.
Et tu fais encore un petit peu de com ou...
Je fais un petit peu...
À part évidemment pour Toobane.
Je fais un petit peu pour... je travaille un peu avec Condé Nast, avec GQ.
Ok.
Mais parce que c'est un...
Oui, c'est vrai, je t'avais passé sur GQ.
Parce que c'est un ami, Thomas Leroy, qui gère le pôle vidéo de Condé Nast et qui m'a demandé de venir donner un coup de main il y a un an.
Vous avez le bras long, Sylvain Tavenot?
Oh là là, si vous saviez.
Et surtout musclé.
Et je sais qui a tué Kennedy. Ça, et je ne le dirai
c'est
pas.
C'est un pote d'ailleurs.
Et c'est un pote, c'est Thomas Leroy. C'est Thomas Leroy de Condé Nast qui a tué Kennedy. Et donc là, je travaille un peu avec eux sur. On a fait le développement de leur chaîne YouTube l'année dernière, parce qu'ils voulaient arriver sur YouTube. On a développé le très bon programme qui s'appelle Amateur, avec Alban Pellegrin, l'ancien de Koh-Lanta, qui va se faire péter la gueule en Thaïlande pour faire de la boxe. Je vous fais le résumé rapidement.
Comment il s'appelle ?
Amateur sur YouTube.
Alban. Oui, je me rappelle d'Alban, qui avait été sacrifié par Jeff aux ambassadeurs.
Alors tu sais que j'ai jamais regardé Koh-Lanta, mais. Quand on a fait la soirée de lancement de. Bah d'ailleurs, il y avait beaucoup de potes à toi, il y avait Ryan. Déjà,
bah, il y avait Ryan, ouais.
Quand on a fait la soirée de lancement de ce projet, il y avait tout Koh-Lanta qui était là.
Je sais, j'avais.
Je connaissais personne, mais
j'ai vu les photos de Ryan, j'étais
ouais, pas jalouse. Voilà, exactement. Et donc, je continue un peu, mais c'est pas. Faut que le projet m'intéresse, et là, c'est vraiment parce que c'est un pote qui m'a dit viens, on va rigoler un peu, je suis OK. Voilà.
Et par rapport au We Are the 90s, au niveau, donc au départ. Au niveau confort de vie, comment ça s'est passé? Comment t'as fait pour passer finalement un rythme très classique de faire du lundi au vendredi de 9h à 18h ou de 10h à 19h et passer à une vie en fait, bah, du monde de la nuit en fait, tout simplement? Comment ça fait que t'as fait pour faire la passerelle entre les deux?
J'en ai chié énormément. non, c'était... ça a été un peu... Ouais, c'était un peu sport.
Ouais,
Surtout à un moment donné où je bossais, j'ai bossé chez Canal aussi.
Ouais.
Donc je faisais un peu, j'avais des horaires de bureau à essayer le moulineau. Pas toujours évident à tenir, mais avec Marie Mustel, exceptionnelle Marie Mustel. Marie Mustel, c'est le parrain de tous les métiers cool de Paris. Et c'est elle qui te place à chaque fois, qui fait toi, tu vas aller là, je connais un truc, c'est pas. Et qui m'a pris chez Canal+, et avec qui j'ai travaillé pendant longtemps. Et donc, ouais, le rythme était un peu compliqué. Mais à l'époque, on avait une soirée par mois. Là, si tu veux, le rythme il s'est intensifié avec le lancement de la chronologique en 2013.
Mm-hmm.
On est passé à deux soirées par mois, plus on fait souvent des jeudis.
Oui, t'as le karaoké aussi.
T'as le karaoké, on a trois soirées qui tournent. On boit pas que de l'eau. C'est important de tenir le coup.
Bien sûr.
Quand tu as écouté 600 fois Sandy Valentino, il faut t-shirt pour écouter la 700e. Donc, mais après, ça va parce que j'ai. Alors, je ne vais pas dire que j'ai une hygiène de vie propre, mais je ne suis pas non plus dans l'abus. Tu vois, en dehors de mes soirées, je picole pas à la maison, je ne mets pas des caisses, je n'ai pas trop de problèmes, je fais beaucoup de sport, ce genre de choses. Donc, ça va, on tient le coup. Mais c'est vrai que quand j'avais des horaires un peu de bureau, un peu classique, où j'avais des rendez-vous un peu tôt le matin, c'était pas mes meilleurs.
Bah surtout qu'au départ, en plus, quand tu changes un peu de vie, tu vas avoir tendance à essayer de te sécuriser. T'as dû prendre pas mal de missions et compagnie en com. Et du coup, là, faire un double boulot.
Et tu sais que ce qui était encore plus compliqué, c'est que j'ai déménagé à Stockholm à cette époque.
On n'aime pas faire les choses simplement chez les Tavenots.
Ouais, autant qu'à faire. Là, j'ai vécu un an à Stockholm et du coup, je faisais des retours sur Paris.
Pourquoi, du coup, t'es parti à Stockholm?
Pour le bilan carbone, pour niquer le... non, je suis
parti. Parce que je déteste la planète et l'écologie.
Et quel est le moyen le plus efficace de tout niquer? Et non, je suis parti à Stockholm, c'était un projet de vie que j'avais avec mon ex-copine. On voulait bouger et aller voir cette magnifique ville. Et du coup, j'y suis resté un an. Ma copine est toujours, mon ex-copine. mais du coup, voilà, c'était une superbe année à Stockholm, c'est génial.
J'y suis jamais allé, j'aimerais bien y aller.
Tellement bien. Mais du coup, ouais, pendant 2012-2013, j'étais là-bas, donc je gérais les trucs à distance et je faisais des allers-retours.
Et du coup, vous avez créé les. Donc, j'en ai parlé un petit peu dans mon intro, mais tu as aussi les soirées chronologiques.
Tout à fait.
Qui sont en fait des soirées où on commence les années avec les musiques des années 1950 et ça finit jusqu'en 2010, c'est ça ?
Bah, 2020, du coup.
2020, oui.
Non, c'est 2020. Une idée de génie importée par Bertrand Nickel.
Mais c'est incroyable.
C'est une mine d'or. Bah,
Mais du coup, quand tu étais à Stockholm, parce que tu me disais tout à l'heure que les chronologiques dataient de 2013, ouais. Du coup, tu as commencé à lancer ça en étant à Stockholm ou juste après être revenu ?
J'ai plus exactement les dates exactes, mais je sais que je revenais à l'époque pour les chronologiques. Donc on a lancé ça. Après, pour lancer le truc, voilà, en Internet. Tu vois ce que c'est ?
Oui, j'ai ouï dire.
Donc, pour faire la com, machin et tout, c'était pas trop un problème.
Oui,
après,
puis t'as pas un décalage horaire d'incroyable avec Stockholm.
T'as rien du tout. Donc, t'es dans le même fuseau, t'es à 2h20 d'avion, 2h40 d'avion. Donc, c'était pas si compliqué que ça.
Et plutôt avec ton jet, ça va plus vite en plus.
Exactement. Exactement. Lui-même.
Mais, attends, j'avais une question, je me rappelle plus. Si, oui, comment vous sépariez le boulot avec Bertrand
avec
d'ailleurs ?
Bertrand ?
Ouais.
Bah, Bertrand était en Colombie.
C'est n'importe quoi.
Non, en gros, moi, je suis plus sur l'opérationnel, ouais. On va dire, parce que j'adore préparer mes soirées, être là, être présent et tout.
T'es un homme organisé.
Ouais, j'aime bien être là. Et Bertrand est plus sur l'aspect financier, la négociation, les trucs chiants que j'ai pas envie de faire et que lui a pas envie de faire, mais il faut bien qu'il fasse un truc.
Quelqu'un le fasse.
Et du coup, ouais, on travaille. Très tôt, je lui ai dit que moi, ça ne dérangeait absolument pas de faire toutes les soirées, de venir gonfler mes gros ballons à 19h à la machine. Au contraire, j'adore ça. Et on se répartit un peu les tâches comme ça, quoi. Lui, il fait tout ce qui est comptabilité. Moi, j'en peux plus de la compta.
Tu m'étonnes.
Ça mérite. donc, il fait tous les trucs chiants et moi, je fais les trucs cool.
en gros.
Et puis, ça marche très bien comme ça, donc on est content.
On recevra Bertrand pour avoir son droit de réponse.
Ouais, sur l'opinion.
Droit de réponse, Bertrand, nickel. Mais au niveau. Alors, et du coup, bah, je suppose, après, tu disais Bertrand, il croyait plus, mais est-ce que vous attendiez à un tel succès en fait,
Jamais de la vie. Non, vraiment pas. Alors, Bertrand, rapidement, il a compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec ce projet.
Ouais.
Parce qu'il connaissait un peu, il voyait passer un peu les deals dans le milieu de la nuit, il se rendait bien compte que quand tu ramènes 1500 personnes tous les mois, les salles de spectacle sont intéressées et peuvent te faire un peu de thune. Mais que ça, alors déjà, qu'il y ait autant de succès, on s'est retrouvé quand même en 2010, on a fait deux We Are the 90s avec des guests, une en 2010, une en 2012. Et donc en 2010, on se retrouve à Porte de la Villette, Grand-Dalle de la Villette, non c'est la Grand-Dalle de la Villette, comment ça s'appelle
Bonne question.
C'est la grande salle. C'est le,
ouais, c'est, la je sais Villette. Plus, c'est la grande salle. Ouais. Moi, à la Villette, j'allais surtout au Glazart. Hein, donc, c'est autre genre de soirée.
Bah, c'est le grand truc là. On a fait une guest session avec Dr Alban et Adaway. Incroyable. Donc, en live. Avec 5000 billets vendus direct, pareil.
Incroyable.
Et deux ans plus tard, on refait une guest session avec Two Unlimited, ASMC, Coolio et Boris. Soirée disco.
C'est pas vrai.
Si.
Alors, c'était assez drôle. Est-ce qu'il avait débranché le téléphone ou pas ?
Hein ?
Il avait débranché le téléphone ?
Non, ce qui était très drôle, c'est que Coolio, il venait, je crois, de Los Angeles avec l'avion.
Il y a un crossover incroyable. Quoi.
Ouais, et Boris, il venait en IDZN depuis Avignon. Et c'était vraiment cool. Et Coolio était très compliqué à gérer, mais alors Boris, c'était une machine de guerre.
Non, mais Coolio, c'est
le
aussi,
gangsta rap. Hein,
c'est clair. Ouais. Est-ce que vous avez dû prévoir une maxi loge toute dorée
Alors, c'est pas
nous, avec du Veuve Clicquot qui nous sponsorise.
C'était Garance, Production qui gérait, qui a l'habitude des artistes, donc qui gérait les artistes. Mais je sais qu'il a eu des demandes complètement cons et qu'il s'est pointé avec. Il s'est pointé avec 15 minutes de retard
sur le show
pour chanter. Genre au moment où en plus, c'est nous qui annoncions les guests. Et je crois que c'est moi et mon pote Mich qui annonçons Coolio. Et on a dû meubler pendant 10 minutes. Toi
hey, Coolio, t'aimes bien.
Les gens font, c'est nul.
Putain, ouais.
Va-t'en.
Et tu peux nous dire ce qu'il avait comme demande débile de.
Je sais plus. Je crois qu'il y avait une espèce de. Alors déjà, je crois qu'il voulait de la weed, beaucoup de weed. Et je crois qu'il y avait une demande de whisky spécifique. Il a pas voulu faire le soundcheck, les réglages. C'est son DJ qui est venu faire, qui a fait la voix, machin et tout. Ouais. Il a fait le traîner un peu pour qu'il vienne sur scène, machin et tout. Après, sur le show en lui-même, il était très bon.
Ouais.
Je crois qu'il a fait même une chanson en rap, vite fait. Mais il avait, voilà, deux, trois...
Qu'il a facturé derrière.
Il a demandé. Il y a une scène incroyable. Il y a Navi aussi, qui faisait partie de Girls Aventies, qui a beaucoup...
Navi, qui est autrice,
ouais, tout à
de
fait.
Moi en double, notamment.
Et qui a beaucoup bossé sur le moment où Girls Aventies passe de petites salles à des grandes salles. Mm-hmm. Parce que c'était elle qui était en charge de trouver les salles et tout. Elle avait fait un super taf à l'époque. Et il y a une scène incroyable, parce qu'on est tous sur scène, hein, sur Girls Aventies, où il y a Coolio qui a son lacet défait et qui garde Navi en faisant « Vas-y, fais-moi mon lacet, wesh ». Et Navi, il fait « Bah, non, en fait, ça n'a pas du tout se passer comme ça, mon pote ».
C'est clair.
Incroyable. Donc, il est un peu comme ça. Bah, mec, c'est le gangsta rappeur. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais Boris aussi, du coup, gangsta rappeur. Et
Boris, incroyable. Boris, il était incroyable.
Qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, Boris ?
Mais il tourne. Mais alors déjà, lui, il a.
Il fait partie des soirées nostalgie, enfin, pas nostalgie de la radio, mais des trucs un peu nostalgiques.
Mais en fait, Boris, c'est un DJ producteur animateur des années 90. Donc il a. C'est Philippe, j'ai oublié son nom de famille, Philippe quelque chose. Il a créé ce personnage de Boris. Mais il a créé plein d'autres tubes dance qui ont bien marché. Donc je pense qu'il est plutôt confort. Il a fait Le Dormeur doit se réveiller, il a fait un autre truc que j'ai découvert la dernière fois qui est hyper connu, j'ai oublié. Et ouais, il continue à faire des fêtes de 3-4 000 personnes dans des villages, des tournées 90, des trucs comme ça.
Et on en parlait beaucoup pendant le déclic de Lola Dubini, qui était notre premier déclic. Et c'est vrai qu'en fait, on oublie, surtout nous, pour personnes extérieures à tout ce monde-là, c'est qu'il y a beaucoup de chanteurs, en fait. Être chanteur ou être artiste, c'est pas forcément en fait, remplir les stades de France, remplir l'Accor Hotel Arena. Il y a beaucoup de gens qui se produisent dans les petits villages, qui se produisent dans les petites villes, etc., et qui vivent de ça. Et c'est ça aussi, en fait, le métier de chanteur et le métier d'artiste.
Mais c'est surtout qu'à un moment donné, quand tu sors un hit, que tu dis que t'es en tête d'affiche sur 2-3 ans, comme lui il a pu l'être avec Boris ou avec Miss Camping, mais derrière il te reste quand même 60 années de ta vie à tenir, donc faut que tu fasses aussi des choses, quoi. Et lui, non, mais moi je pense qu'il s'en sort très bien, et surtout c'est vraiment un type bien, quoi.
C'est génial. Mais après vous avez fait une soirée avec des guests aussi il y a pas très longtemps, non?
Alors pour la 100e We Are the 90s,
oui c'est ça.
C'était il y a 2 ans, je crois. On a réinvité Adaoué.
Oui, c'est ça.
En fait, on voulait faire Gala, mais Gala, Gala elle veut plus faire de... Alors Gala, qui est vraiment hyper cool, qui était avec nous à Solidays l'année dernière. C'est ça aussi, on a fait Solidays.
C'est dans mes questions, t'inquiète pas.
D'accord. Quelle vie.
Incroyable.
Qui est hyper cool et tout, mais elle veut plus faire de... rejouer ses titres tels quels, ou faire des trucs prestations un peu boîte de nuit,
d'accord,
etc.
Ouais.
Adaoué, il prend l'argent. Adaoué, mais il est adorable. Très gentil.
Mais... Et c'est ce que je disais aussi dans l'introduction, c'est que vous avez fait développer aussi vos soirées à Montpellier. Et pourquoi avoir choisi Montpellier en fait comme ville spécifiquement ?
Parce que on a en fait, c'est pas nous qui avons choisi, on a une prod locale qui s'appelle Snapshot. C'est des gens exceptionnels. Donc Snapshot, en fait, c'est les producteurs d'un autre événement qui s'appelle le Worldwide Festival à 7, qui est un truc immense.
Et ça n'est pas un célèbre réseau social prononcé de façon avec un accent du Nord.
Et non. Et eux, ils bossent, bien sûr que... Et eux, ils bossaient beaucoup avec une salle qui s'appelle Rockstore à Montpellier.
Ouais.
Et très tôt, ils ont été intéressés par nos soirées parce que donc Guy Salançon, personnage exceptionnel qui était venu à Paris pour découvrir la soirée, a fait « Ah ouais, ça m'intéresse, ça me parle ». Donc on a commencé à les faire là-bas, depuis, je crois que c'est 2011 ou 2012.
Ah oui,
ça fait un moment, on a fait un paquet.
Ouais,
et du coup, là, on en fait une tous les mois là-bas, soit une We Are, on alterne avec We Are the 90s et Chronologie. Et c'est toujours, on aime beaucoup descendre à Montpellier. On a fait Rennes l'année dernière,
d'accord,
pour la première fois, c'était hyper bien. Dans une salle à côté du stade de Rennes où tu peux mettre 1500 personnes, c'était incroyable, super ambiance. Et je pense qu'on on était censé refaire au mois de juillet, mais du coup là c'est moins évident. Mais on va très certainement refaire Rennes aussi à la rentrée là.
Et les Solidays, tu peux nous en parler un petit peu du coup ?
Quelle folie, tiens, j'ai les poils avec. Alors les Solidays, mais d'un coup t'es artiste. tu débarques et tu mixes Solidays. On l'a fait deux fois, on l'a fait une fois en 2000, j'ai pas de conneries. Je crois que c'est 2012.
Ouais.
On l'a fait une fois en 2012 et on l'a fait deux fois de suite les deux dernières années là. Mais c'est incroyable, c'est que tu te retrouves dans le village artiste avec des gens qui pèsent un peu, avec des Mathieu Chélide, des Orelsan, des trucs comme ça. Et tu te retrouves à passer du son devant 8000 personnes et c'est une folie.
Et vous avez été contacté, je suppose,
On a été contacté, ouais. On a été contacté par directement Solidays. Alors au début, c'était quand on était à Zivon Mar, donc c'est Arnaud Lavergne qui nous a chapeauté. Et sur les deux dernières, on est passé en direct. Et ils nous aiment beaucoup et on les adore. Et à chaque fois, on fait des soirées. Enfin, on a des images incroyables. On fait un bordel à Solidays. On met tout sur la déco gonflable. C'est que l'année dernière, quand on a fait Solidays, on avait acheté pour, je sais pas... Alors déjà, on prend pas d'argent. Hein. On reverse tout à Solidarité SIDA. On facture juste les goodies gonflables.
Le budget ballon.
Le budget ballon. Mais on a des trucs... On avait acheté des licornes géantes, mais genre mais 30. Enfin, tu vois, on y allait vraiment comme des... On passe plus de temps à gonfler les trucs avant de remonter sur scène qu'à mixer, quoi. Mais j'ai des images incroyables. Je vois des gens qui sont portés par la foule sur leur licorne, qui sont comme ça, genre en mode « Salut !» Et qui passent devant toi comme ça, genre « Ah, ça se passe bien !» Incroyable. Et c'est génial. Enfin, c'est des trucs que t'es pas du tout préparé pour vivre à aucun moment de ta vie. Et c'est ce que tu vis dans tes soirées, mais fois 10. Je sais pas, il y a 7 ou 8 000 personnes... Et il y a une ambiance incroyable.
Et on en a parlé un petit peu dans ta chanson qui sera sortie avant ou après cet épisode, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais tu te lâches jamais de tout ça.
Mais non, c'est alors déjà il y a en fait c'est très très agréable de bosser parce que déjà l'équipe de la donc on est à Les Yeux Montmartre jusqu'à ce que ça brûle en 2013 je crois. Et après on bascule à la machine du Moulin Rouge. Il y a une équipe qui est géniale à la machine et qui on s'entend hyper bien. Moi, j'ai un crew, les gens qui bossent avec moi, c'est des potes. On s'amuse beaucoup tous ensemble, donc on est tout le temps très content de se retrouver. Et ça reste des choses sur lesquelles tu n'avais pas du tout prévu en amont dans ta vie et que tu te retrouves à gagner de l'argent, à gagner ta vie en faisant la fête, quoi.
C'est ça.
Donc, non, je ne me lasse pas du tout. Je continue à beaucoup. Et là, ça me manque énormément de ne pas avoir fait de soirée depuis.
Justement, je voulais en parler. Comment tu as vécu, toi, le confinement en tant que professionnel de la TOF? Sachant qu'en plus, je fais un petit aparté, c'était aussi dans mes questions, c'est que tu as en fait aussi récemment lancé ton bar qui s'appelle le 3615,
ouais.
Qui est un bar en fait à thème année 80-90, ouais. Mais qui reste fermé malgré les confinements parce que vous êtes considéré comme boîte de nuit puisque vous fermez à 5 heures. D'ailleurs, quand ça réouvrira, je vous invite à y aller. C'est vraiment très sympa.
Ah oui, c'est cool.
Notamment, cette cabine de DJ absolument incroyable en forme de magnétophone, non?
Non, de Ghetto Blaster.
Voilà, j'avais pas le nom. Voilà. J'avais moins de culture années 90 que toi.
Les 4 notes 4.
Mais ouais, non, et du coup, donc ouais, comment t'as vécu? On va parler après un petit peu du 36-15, mais ouais, c'est une très bonne transition. Effectivement, je voulais te demander comment tu as vécu, toi, tout ça, tout le confinement et tout.
Alors, personnellement, très bien. Parce que depuis l'ouverture du bar au mois de septembre, plus la multiplication des soirées, je prenais un petit peu cher dans la tête. Hein. Et puis on est plutôt jeune, hein, chère Juliette. Hein. Voilà. Donc moi, alors personnellement, ça s'est très bien passé. Et ça m'a fait du bien de couper un peu, vraiment, et de dormir. Et de j'ai pas picolé une goutte d'alcool, hein, à part pour mes 40 ans qui sont tombés dedans. Oui. Je me suis cintré une petite bouteille de champagne, viteuf comme ça.
Neuf clicots.
Mais du coup, j'ai fait une vraie coupure par rapport à ça. Et c'était pas désagréable du tout. Après, professionnellement, ben, c'est jamais très agréable. Surtout l'incertitude qui est.
C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que toi, je sais que tu n'es pas d'un naturel anxieux, mais ça, c'est quand même anxiogène comme situation. Est-ce que tu as été un peu. Est-ce que tu l'es encore?
Alors, la chance qu'on a avec notre société, c'est qu'on a la trésorerie pour voir venir. Parce qu'on n'a pas de lieu fixe, on n'a pas de charge fixe.
C'est l'avantage.
Mes associés du 36-15, que je suis associé sur 36-15, c'est les Bonjour Bonsoir qui ont le Panic Room, qui ont plein de boîtes dans Paris. Eux, les loyers,
ils casquent.
Ils casquent. Donc, ils dépendent des prêts garantis par l'État, etc. Donc, eux, c'est très anxiogène. Pardon. Nous, avec Bertrand, on a une salariée, mais on n'a pas de gros frais fixes mensuels.
Oui, puis après, les personnes, lui, il y a DJ Cosmic et DJ Petrushka, c'est du free. Donc,
C'est du free, donc c'est plus compliqué pour elle que pour nous. Quoi. Donc, par rapport à ça, on était assez confiants. Et très, très rapidement, on s'est dit, tant qu'on peut reprendre avant janvier 2021, ça va. Maintenant, ce qui est compliqué à vivre, c'est plus l'incertitude et de ne pas savoir quand tu vas reprendre.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, tu m'annonces mi-avril qu'on reprend sur janvier 2021. Je fais bon, ok, soit. Mais d'être toujours dans l'hésitation du truc, là c'est pareil, le 36-15, on pensait pouvoir le réouvrir cette semaine. Semaine du 21 juin.
C'est vrai qu'on
juin.
En avait parlé récemment en plus.
Ouais. On pensait pouvoir l'ouvrir et puis finalement on ne peut pas l'ouvrir.
Ouais.
Donc ça c'est un peu chiant. Là je ne suis plus du tout l'angoisse ni rien parce qu'il y a un début de reprise qui est minime. Hein. On commence à nous proposer des plans où il faut mettre de la musique mais pas faire danser les gens. Mais au moins on peut mettre de la musique, tu vois. Donc, c'est pas encore la grosse fête, mais on sent que ça va quand même vers le positif. On a une soirée qui est prévue au mois d'août à côté de Saint-Raphaël qu'on fait tous les ans au Mats Escarbatier. Elle est maintenue. Donc voilà, ça aurait pu être pire, mais c'est toujours plus sympathique de recommencer à travailler. Là, je suis passé à la machine il y a 10 jours pour dire bonjour aux amis. Je suis avec Tanguy Rousseau et Martin qui voulaient faire un petit pèlerinage du coup. Quand tu rentres à la machine, que tu as l'habitude d'y être tous les 10 jours et que tu rentres là et que tu fais putain, ça te manque un peu quand même. Hein.
Ouais.
Mais là, la première, la machine, ça va être la folie. Ouais. Donc on repartira de plus belle. Et puis
je
voilà.
Prends mes places directes.
Oh, bah, tu m'étonnes.
Est-ce que ça a été vecteur en fait de création d'autres projets pendant le confinement? Tu as pensé à des nouveaux concepts
Oh oui. Oui, il fallait bien s'occuper. Non, mais comme en parallèle, je bosse beaucoup avec. Enfin, je bossais avec Condé Nast sur de la création de vidéos. J'essayais de faire des passerelles avec des trucs. Donc, j'ai un peu bossé sur des projets de vidéos, de contenu, soit sur des chaînes YouTube, soit de contenu un peu plus ambitieux, comme un documentaire sur la musique des années 90, par exemple, que j'ai commencé un peu à écrire. Des trucs comme ça, un peu dans le même univers. Je me suis beaucoup amusé à faire la communication aussi des Instagram du 3615 et de We Are the 90s. Ça m'a pas mal occupé pendant le confinement. Donc voilà, j'ai quelques projets autour de la vidéo qui ont commencé à émerger, mais j'ai eu beaucoup de mal en fait à m'imposer un rythme de travail aussi pendant le confinement. Ouais. Quand tout est arrêté, que t'as pas d'impératif, à mon avis,
c'est que
on verra plus tard. Donc mais oui, je me suis posé la question quand même à un moment donné, ce que je pensais vraiment pas avoir à faire, c'est de dire est-ce que si la fête s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Bah, la fête, il y aura toujours. Eh ben non. Non. Donc j'ai réfléchi et oui, j'ai deux trois trucs, mais c'était pas non plus c'était pas la panique.
Et du coup, tu m'as inspiré une question effectivement, mais est-ce que ça a remis en question ta carrière en fait, ce confinement? Est-ce que tu t'es dit c'est peut-être le moment d'arrêter ou
Oh non. Non, parce que on sait que
je ne pense pas. Vous êtes en plein bon.
Non,
stratégiquement parlant, ce serait pas le bon.
Ouais. Non, mais on sait que ça va reprendre. c'est juste que tu te poses la question de.
Est-ce que t'aimes vraiment ce que tu fais?
Ben alors ça, c'est clair que oui. Non, c'est juste que tu te poses la question professionnellement. Est-ce que tu dis, il faut peut-être pas avoir tous ses œufs dans le même panier.
Ouais. Comme disaient les jeunes.
Comme disaient jeunes, ouais, exactement. Ça c'est exactement.
Tu vas sortir des collèges, ils disent tous ça tout le temps.
Mais c'est comme quand les îles Montmartre a brûlé en fait.
Ouais.
On s'est retrouvé sans.
La vie te rattrape.
Et on s'est retrouvé con parce que d'un coup on savait pas quoi faire. Donc.
Vous êtes retrouvés comme deux ronds de flanc.
C'est important de garder plusieurs cordes à son arc, comme disent les jeunes du terre-terre. Voilà.
Et est-ce que tu dois faire ça toute ta vie ou toi?
Alors, à ce rythme-là, clairement, non.
Est-ce que tu veux mourir sur scène, comme Dalida?
Oui, évidemment, bien sûr. Non, à ce rythme-là, clairement, non. Mais je sais plus, je m'étais dit de faire encore un ou deux ans à ce rythme-là, parce que je pourrais déléguer. Hein. C'est même pas un problème. Les soirées peuvent très bien marcher sans moi. Mais j'aime bien gonfler mes ballons à 19h à la machine.
Ou alors, tu feras juste le point ballon et puis après, tu.
Donc, je vais. Voilà, j'ai pas. Parce que c'est quand même. C'est un gros rythme, quand même, surtout avec le bar. Qui est ouvert du mercredi au dimanche. Donc j'avais en tête de lâcher un peu de lest et de peut-être en faire moins ou différemment, mais j'ai pas non plus d'urgence. Là, au contraire, le confinement m'a fait prendre conscience à quel point c'est cool.
Tu vas revenir plus en forme que jamais.
C'est clair. Non, mais à quel point c'est cool de faire ce que je fais, donc je vais en profiter un maximum. Quoi.
Et dernière question.
Je vais finir tellement vieux ringard derrière la piscine. Je suis alors les jeunes, simple et funky. Allez,
frais bigarré.
C'est nul. Sors de là.
Mais du coup, je vais faire ma dernière question, une question qu'on pose souvent à la fin de notre déclic. Si le Sylvain d'avant ton déclic te voyait maintenant, qu'est-ce qu'il te dirait?
Chapeau. Non, il serait ravi. Enfin, moi, c'est un tournant professionnel, mais qui m'a fait changer, basculer complètement. Après, j'ai tout le temps été quelqu'un de très très heureux dans ma vie, etc. Mais d'être à ce point-là dans un truc qui me ressemble, qui est festif, c'est génial. Le Sylvain d'avant le déclic était très content, celui d'après il est encore plus content.
C'est génial. Bah, écoute Sylvain, je te remercie beaucoup, j'ai passé un très bon moment.
Merci Juliette, merci Sophie.
Ah oui, d'ailleurs il y a Sophie, je vois dans les notes, qui a demandé pourquoi pas Lille pour les We Are the 90s.
Bah, pas Lille parce que, mais en fait c'est pas nous qui allons chercher les prods, c'est les prods qui nous proposent.
Sophie va chercher Sylvain.
Mais tu sais que Sophie a mixé pour moi. Hein.
Oui, c'est ça. Je me rappelle. Elle s'appelle
Sifilis. Ouais, DJ Sifilis. pour les gros stuff.
Je me rappelle très bien. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, nous, pour nos auditeurs. C'est parce que tu as organisé les soirées pour Mademoiselle. Et moi, je travaillais à l'époque chez Mademoiselle.
Exactement. On a lancé les gros stuff. Et après, on a laissé Mademoiselle gérer ça de main de maître. Par contre, on a piqué tous les DJ de Mademoiselle.
C'est comme ça. C'est business is business.
Exactement.
Bah, merci beaucoup, Sylvain.
Merci beaucoup, Juliette.
Et on se voit très bientôt, on espère, pour une de tes soirées.
J'invite
tout le monde à prendre ses places pour la Where the 90s de déconfinement, qui va être assez épique, je pense, en septembre.
Qui peut tomber à tout moment.
En plus.
Non, on part sur septembre, mais si ça peut tomber avant, on va trouver un moyen.
Merci beaucoup, Sylvain.
Merci, Juliette.
À bientôt.
Bisous.
Merci d'avoir écouté le déclic de Sylvain Thavenot. Si son interview vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter son épisode de La Chanson, dans lequel il parle encore de son expérience de roi de la teuf. Pour ne rater aucun de nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli d'écoute préférée et à nous suivre sur les réseaux sociaux, @18h17 Production. Pour toujours plus de 18h17 Production, vous pouvez aussi écouter nos autres podcasts, La Chanson donc, et L'Apéro. À bientôt!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.